France Culture.
Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à l'histoire de l'Ukraine. Après avoir évoqué la naissance de l'autonomie et des velléités d'indépendance ukrainienne avec Daniel Beauvois, c'était lundi, puis mardi traité des années 20 et 30 avec Thomas Chopard et Nicolas Vert, puis hier avoir approché avec Timothy Snyder, Nathalie Moine et Christian Ingrao la complexité de la Seconde Guerre mondiale sur ce territoire de l'Europe du Centre-Est, nous allons ce matin conclure cette série en nous interrogeant sur la période de l'après-Seconde Guerre mondiale en Ukraine. Comment cette région est-elle sortie de cette guerre de Seconde Guerre mondiale? Quel fut le regard du régime stalinien sur les nationalistes ukrainiens? En quoi la politique des nationalités a-t-elle joué sur cette république? Pourquoi Khrouchtchev a-t-il choisi en 1954 de rattacher la Crimée à l'Ukraine? Comment les mouvements civils se sont-ils développés dans les années 80? Comment s'est décidée enfin l'indépendance de 1991? Catherine Gousseff sera avec nous, elle est historienne chercheuse au CNRS et directrice du centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre européen à l'école des hautes études en sciences sociales. Alexandra Goujon est également avec nous. Elle est maître de conférences en sciences politiques à l'université de Bourgogne. Elle est auteure de Révolution politique et identitaire en Ukraine et Biélorussie chez Belin. Et puis Yulia Choukan est également avec nous. Vous l'avez entendu au matin de France Culture la semaine dernière. Elle est maître de conférences en études slaves à l'université de Paris-Ouest, Nanterre, La Défense. Avant de nous poser toutes ces questions complexes, commençons cette émission, comme chaque jeudi, en faisant un petit tour du côté des nouvelles d'histoire puisées dans vos journaux et sur le net. Nous ne cessons de noter ici ou là de nouvelles mises en ligne consacrées au centenaire de la Grande Guerre. Ainsi, le site Europeana 1418, qui rassemble des documents confiés par des Français sur la Grande Guerre et des expositions virtuelles sur ce sujet, un site chaque jour un peu plus riche de documents français mais également étrangers. C'est aussi le cas du nouveau site pédagogique comme il se doit, conçu par la Fondation Jean Jaurès sur le grand homme assassiné à la veille de la Grande Guerre, une frise chronologique de la vie de Jaurès bien sûr, mais aussi des articles du leader socialiste dans l'Humanité et l'annonce des différentes manifestations consacrées au centenaire de la mort de Jaurès et ce qu'on trouve sur ce site Jaurès 2014. Mais parmi tous ces sites liés à 1914, je m'arrêterai un peu plus longuement sur celui des étudiants de l'école de journalisme de Lille, l'ESJ, mon ancienne école d'ailleurs, titré sur la ligne de front. Qu'a-t-il donc de si particulier ce site? Eh bien, 60 étudiants de l'ESJ Lille ont décidé de parcourir par petits groupes les 700 km de la ligne de front entre la mer du Nord et la frontière suisse. Un de ces bataillons, comme ils se nomment eux-mêmes, s'intéresse ainsi aux soldats portugais qui ont combattu pour la France. Un deuxième a pris le nom d'Alan Singer. Alan Singer, donc poète américain engagé en 1916 dans la Légion étrangère, est mort pour la France après avoir écrit « J'ai rendez-vous avec la mort ». Tandis qu'un troisième bataillon s'est baptisé par exemple sur le chemin de la Champagne du nom d'un soldat venu de l'actuel Sénégal, Bouna Albouri Ndiaye. Tous ces jeunes journalistes nous racontent des histoires, nous dressent des portraits vivants de jardiniers de cimetière par exemple, ou de gérants de lieux de mémoire présents partout sur cette ligne de front. Un blog collectif à parcourir donc un petit peu plus chaque jour, car nos jeunes marcheurs de la ligne de front ajoutent des articles chaque jour à leur site jusqu'à la fin de cette semaine. Que reste-t-il des guerres passées? La découverte récente par l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, d'un curieux cimetière de chevaux près de Bar-sur-Aube interroge les archéologues. Ces archéologues cherchaient à la veille de la construction d'un lotissement la présence d'une voie romaine, la voie d'Agrippa, mentionnée sur la table de Pöttinger. Et sur quoi sont-ils tombés? Eh bien, ils sont tombés sur d'étonnantes tranchées en zigzag de plus de 45 mètres de long, dans lesquelles ils ont trouvé une quarantaine de carcasses de chevaux. Particularité, la tête de chacun de ces animaux à forte corpulence reposait sur le poitrail de la suivante. Pourquoi ce cimetière de chevaux? Est-il le témoin de l'épopée napoléonienne et de la bataille de Bar-sur-Aube en 1814? Est-il le témoin de la guerre de 14 au contraire, ou bien des combats de 1940? La question reste visiblement posée. En revanche, nos archéologues ont bien trouvé la trace de la voie d'Agrippa qu'ils cherchaient. Que reste-t-il des guerres passées? Le journal libanais L'Orient le Jour faisait cette semaine le point sur le projet Beit Beyrout dont on avait parlé lorsque nous étions à Beyrouth il y a quelques semaines. Et ce projet doit, dans une des dernières ruines encore conservées de la guerre du Liban à Beyrouth, la maison Barakat, proposer à partir de l'an prochain un musée de la guerre civile, un projet qui ne se veut pas, surtout un monument aux morts, comme le précise l'architecte Youssef Haïdar. Nous travaillons comme les archéologues pour exhumer un bâtiment multicouche en effeuillant les pages de son histoire, celle de l'architecture et de ses différents langages, celle de la milice qui a réquisitionné les lieux, celle des familles qui y ont vécu, et ce à travers les objets, les photos, les cahiers et les carnets découverts dans les greniers des appartements. En plus, 500 négatifs grand format qui racontent la vie du quartier, la ville de Beyrouth, les baptêmes, les voyages ont été trouvés au rez-de-chaussée, dans la boutique du photographe Mario, qui avait tout laissé en plan pour s'enfuir. L'ensemble constitue une partie de la collection qui sera exposée au premier étage de cette maison et mise à la disposition des chercheurs et des artistes, ajoute l'architecte, faisant observer que la disparition d'une de ces pages de l'histoire serait équivalente à une amnésie, c'est-à-dire à une prescription de l'oubli. Que faire avec son passé quand il est tragique ou quand il est glorieux et comment le raconter? J'ai cité ici l'autre jour la très bonne revue en ligne Orient 21 qui rassemble des écrivains, des journalistes et des chercheurs et tente de raconter autrement l'Orient méditerranéen. Samim Aknogul nous raconte ainsi la polémique qui enfle en Turquie à propos de la projection à la télé turque d'une série depuis 2 ans sur Soliman le Magnifique. La réhabilitation à l'écran de cette époque ottomane que la République kémaliste avait voulu effacer suscite, explique-t-il dans cet article titré Soliman le cathodique, réticence et interrogation sur l'identité turque. Un feuilleton qui dure maintenant depuis 2 ans et dont le dernier rebondissement en date, le 123e épisode, relatant l'histoire véridique de l'assassinat du dauphin Mustafa, a créé un émoi sans précédent, dit-il, dans l'opinion publique turque, et ce jusqu'au Premier ministre Recep Tayyip Erdogan qui a tonné « Ce n'est pas le Soliman que nous connaissons ». En effet, précise Orient 21, les sultans arrivant sur le trône avaient la possibilité de faire tuer leurs parents, les plus proches, les frères, les fils, pour prévenir les guerres de succession et pour la stabilité de l'État. Et Samim Aknogul, dans Orient 21, de conclure, après la diffusion de l'épisode, un citoyen a même porté plainte contre Soliman pour meurtre et le mausolée de Mustafa à Bursa a été rempli de pèlerins. En effet, l'opinion, assez ignorante à cause de la faiblesse, voire de l'absence d'un enseignement digne de ce nom dans les écoles secondaires, découvre ces faits avec un regard présentiste, dit Orient 21. Il faut espérer que l'engouement pour ces séries télévisées titillera la curiosité des Turcs et qu'ils se plongeront dans des livres d'histoire plus académiques, conclut cet article dans Orient 21. Si vous aviez à prendre une de ces nouvelles, une de ces brèves, Catherine Gousseff, il y en a une que vous aimeriez commenter en l'occurrence ou aucune d'entre elles?
Écoutez, elles sont quand même toutes assez éloignées du
sujet. De votre sphère de responsabilité, bien sûr. Mais néanmoins, l'usage de l'histoire par des hommes politiques, vous connaissez. Vous avez dans cette sphère géographique qu'est l'Ukraine et la région russe, vous avez connu les unes et les autres la façon dont les différents régimes avait utilisé l'histoire pour se légitimer.
Absolument. Donc, évidemment, l'Union soviétique, qui a quand même, en tous les cas, en ce qui concerne l'Ukraine, procédé par justement beaucoup d'amnésie, puisque à partir du moment où l'Ukraine de l'Ouest a été intégrée à l'Union soviétique, c'est comme si elle avait été là depuis toujours. Or,
l'intégration. Ça n'a pas été le cas.
Or, ça date juste de 1945.
Alexandra Goujon, sur ces nouvelles de brèves d'histoire, il y en a une qui vous a plus intéressée que d'autres?
Alors, effectivement, il y a le rapport à l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, bien sûr, c'est lié à l'actualité, c'est les points de ressemblance qu'il peut y avoir entre les mouvements de mobilisation qui peuvent avoir lieu dans différentes régions du monde. Mmh. On a parlé des révolutions arabes, aujourd'hui on parle de la révolution en Ukraine, et qui ont des points de ressemblance. Et bien évidemment, par exemple, la mobilisation qui peut y avoir en Turquie, avec un rapport, si on fait le lien avec l'histoire, avec bien sûr un rapport avec aux moments les plus glorieux de l'histoire, comment les interpréter, comment en faire des moments glorieux alors qu'ils sont des moments où il peut y avoir un nombre de victimes important.
Et pour vous, Yulia Choukan?
Non, peut-être juste revenir sur la question des narrations historiographiques qui sont en compétition dans l'espace post-soviétique, mais je pense que au cours de l'émission, de toute façon, on reviendra sur ces questions de grandes narrations.
On va en parler. Un extrait de l'ouverture de Four Ukrainian Themes, donc opus 20, composé par Boris Liatoshinsky en 1927 et interprété par l'Orchestre Symphonique Ukrainien, dirigé par Vladimir Gnedash. Alors, si on commence avec vous cette discussion et si on poursuit la sorte de feuilleton que nous avons commencé en début de semaine, Catherine Gousseff, on s'est arrêté hier en évoquant la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. Si on reprend ce qui se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans cette région de l'Europe du Centre, et en particulier dans l'Ukraine. Que se passe-t-il ? On a évoqué les positions de nationalistes ukrainiens qui avaient pu rejoindre le camp allemand. On a évoqué évidemment les allers-retours sur les territoires de l'Ukraine contemporaine des forces en présence, soviétiques ou allemandes, lorsqu'elles se combattent. Que se passe-t-il à la toute fin de cette Seconde Guerre mondiale ? Comment Staline rétablit-il son pouvoir et que fait-il avec cette région de l'Europe du Centre-Est ?
On revient en fait en partie à un scénario qui était celui du pacte germano-soviétique dans la mesure où l'avancée de l'armée rouge vers l'ouest est marquée par la confirmation de l'annexion de l'Ukraine occidentale, de la Biélorussie occidentale, de ces régions donc qui ont été conquises sur la Pologne de l'entre-deux-guerres. Donc un changement de frontière au bénéfice de l'Union soviétique et qui donc marque pour tous ces territoires une sovietisation.
Qu'ils n'avaient pas connu auparavant.
Qu'ils avaient connu dans la brève période des 21 mois qui séparent la signature du pacte germano-soviétique de l'invasion de l'URSS par la Wehrmacht. Donc 21 mois et qui reprend donc de façon très dure à la fin de la guerre parce que l'opposition, les résistances armées sont nombreuses et ont une capacité de troubles qui est très très importante. Sur fond également donc d'importants transferts de population.
Alors expliquez-nous ça parce que effectivement une des particularités de l'URSS c'est d'avoir souvent pratiqué des transferts de population, mais là c'est en très grand nombre. Par exemple les Tatars de Crimée dont on parle ces temps-ci sont expulsés au loin. Comment ça
Alors,
se passe?
Alors je ferai quand même une distinction entre transferts de population qui consiste donc à au fond, homogénéiser éthiquement, même s'il y a énormément de dérives la plupart du temps. Donc, il consiste à homogénéiser des territoires qui sont modifiés, des territoires frontaliers modifiés, des opérations de déportation qui sont opérées à l'intérieur du pays et sous la seule contrainte et violence. En effet, à la fin de la guerre, on assiste donc à ce qu'on a appelé la déportation des peuples, qui ne commence pas véritablement à la fin de la guerre, mais disons qu'il connaît un sursaut très important avec donc la déportation de peuples entiers, dont les Tatars de Crimée, mais aussi...
Combien de personnes sont déportées à ce moment-là?
Environ 200 000, 250 000 personnes pour ce qui est de la Crimée, mais il y a aussi les Tchétchènes et toutes ces opérations sont menées tambour battant. En une semaine, on parvient à vraiment vider un territoire de sa population.
Donc, qu'est-ce qu'on leur reproche à ces populations qu'on vide de ce territoire et en particulier
C'est des populations qui sont considérées comme collectivement coupables de collaboration avec l'ennemi et transférées. Ouais.
Alors collectivement coupables, c'est une question intéressante, Yulia Choukane ou Alexandra Goujon, c'est-à-dire que ça aura des conséquences, on y reviendra un peu plus tard, après l'indépendance de 1991, mais qu'est-ce que ça veut dire ce collectivement coupable? Elles ont eu des attitudes, parce qu'on a bien expliqué hier, tenté d'expliquer la complexité des situations, que certains évidemment avaient collaboré avec l'occupant allemand, mais ils étaient tous traités collectivement de fascistes ou de forces fascistes qui avaient collaboré avec le fascisme, je sais pas, Yulia Choukane ou Alexandra Goujon?
Oui, peut-être. Enfin, de toute façon, les faits individuels de collaboration pouvaient être avérés en effet, mais c'est le principe de responsabilité collective qui est retenu comme principal chef d'accusation. Ça veut dire que femmes, enfants, donc hommes, femmes et surtout enfants aussi, quel que soit l'âge, l'âge des personnes sont donc déportés en 44, donc en l'occurrence pour les Tatars de Crimée. Et comme a dit Catherine, on donne quelques heures, parfois juste pour faire les bagages, et donc une opération ensuite est mise en place de déportation.
Alors ça, c'est pour les Tatars de Crimée, en l'occurrence, Catherine Gousseff. Qu'en est-il pour les Ukrainiens qui, eux, ont collaboré à un moment ou à un autre avec les forces donc de l'Axe et avec les forces allemandes? Ils sont emmenés, exécutés, déplacés, ou au contraire, on les met au pas d'une autre manière? Est-ce qu'il y a diverses sortes de traitements, pourrait-on dire, de ces populations qui, une fois le territoire reconquis, restent encore sur ce territoire s'ils y sont?
Alors, il y a plusieurs phénomènes qui se croisent. J'ai évoqué la question des transferts de population, puisque ils ont consisté, en l'occurrence, à, en ce qui concerne l'Ukraine et dans sa nouvelle frontière, à organiser le départ de la minorité polonaise, donc plus d'un million de personnes. Et d'autre part, et parce que quand même il y a un phénomène qui convient de rappeler, c'est que les Ukrainiens débordent largement le territoire de l'Ukraine. Et en l'occurrence, il y avait une très importante minorité ukrainienne dans le territoire même de la Pologne d'après 45. Et donc il s'agissait de mettre en pratique la politique du chacun chez soi et donc de rapatrier, et ça a été un rapatriement forcé, de 500 000 environ Ukrainiens qui étaient de l'autre côté de la frontière en Pologne. Pourquoi je rappelle ce phénomène? Parce que ce transfert de population est venu aussi en fait grossir les rangs d'une résistance armée qui était importante et très localisée dans les territoires d'Ukraine occidentale. Et finalement, cela a conduit à des années entières de lutte engagée par le pouvoir soviétique contre ces bandes. Et c'est ce que les historiens ukrainiens appellent aujourd'hui la guerre après la guerre, c'est-à-dire la sortie de guerre en Union dans ces territoires occidentaux. C'est quand même traduite par des affrontements permanents pendant des années, des opérations de ratissage. Enfin, ça a été une région qui a été quand même extrêmement touchée de façon radicale par la violence d'après-guerre.
Pourquoi connaît-on si peu d'ailleurs ces événements d'après la Seconde Guerre mondiale qui font que, effectivement, peut-être depuis l'indépendance de l'Ukraine, ils sont peut-être soit valorisés, soit mis en scène d'une certaine façon, mais pourquoi les connaît-on si peu ces moments de résistance dans cette Union soviétique dont on pense qu'elle est entièrement pacifiée, pourrait-on dire, par le pouvoir stalinien dès 1945, Catherine Gousseff?
Il y a plusieurs raisons, mais je pense que l'une d'entre elles tient quand même à à l'historiographie de la guerre froide, hein, où en fait...
On considère qu'il y a des blocs, et puis que ces blocs sont paisibles ou apaisés par le pouvoir central.
Pas uniquement, il faut dire quand même que justement cette historiographie sur la résistance en Ukraine occidentale est une historiographie qui a été constituée essentiellement dans la diaspora, aux États-Unis et au Canada, dans des circonstances où finalement tout ce qui était anti-soviétique était à glorifier. Or, c'est compliqué l'histoire de ces mouvements de résistance armée, et je pense en particulier, je crois que ça a été évoqué très très rapidement hier, à la question de l'UPA, son rôle évidemment auprès de l'occupant allemand, mais aussi également son rôle à l'égard de la minorité polonaise, cette très grosse question des massacres de Voligny, donc des minorités des polonaises de Voligny qui ont été assaillies à partir en 1943, et qui reste l'un des points très 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 conflictuels des relations polono-ukrainiennes jusqu'à aujourd'hui.
On a bien expliqué dans les années 30 et dans les années 40 ce que les différents conquérants de cette Ukraine espéraient de ce territoire. Qu'est-ce qu'ils espèrent les soviétiques en 1945 de ce territoire ukrainien? Comment veulent-ils le mettre à profit, pourrait-on dire, pour l'Union soviétique? C'est quoi? C'est toujours les fameuses terres. C'est aussi le Donbass, c'est tout ce qu'il y a autour de la question de la sidérurgie. En gros, qu'est-ce qu'attend l'Union soviétique et le pouvoir central moscovite de cette Ukraine à la sortie de la Seconde Guerre mondiale? Je ne sais pas qui veut répondre, Alexandra Goujon par exemple.
Non, je pense que Catherine Gousseff l'a évoqué, il y a une volonté de soviétisation. Une volonté d'homogénéisation, c'est-à-dire l'Union soviétique a conquis de nouveaux territoires, et l'idée, c'est
de les mettre aux normes des autres territoires.
Tout à fait, de les mettre aux normes. Alors, on a parlé bien évidemment de cette lutte armée qui est effectivement extrêmement importante, parce que la mise aux normes est difficile à partir du moment où il y a de la résistance, et de la résistance pas simplement culturelle, politique, mais aussi une résistance armée à laquelle, je dois dire, on fait référence actuellement, par exemple, à Kiev. Donc, c'est cette volonté d'homogénéisation du territoire, de soviétisation, et le fait de éliminer le nationalisme ukrainien, la persistance de ce nationalisme ukrainien qui peut être décliné de plusieurs manières, mais en tous les cas de la défense d'une identité qui irait contre ou qui serait trop peu assimilable à l'identité soviétique, qu'elle soit politique ou culturelle d'ailleurs.
Mais c'est ce que vous expliquez, Alexandra Goujon, cette tension entre un nationalisme soviétique qui voudrait que tous les membres de cette Union soviétique professent un amour pour la patrie soviétique, en l'occurrence, cette patrie qui sort de la Seconde Guerre mondiale. Et de l'autre côté, tout de même, l'exaltation de petites patries. On ne veut pas complètement éradiquer les particularismes locaux, culturels, les unions des écrivains, etc. Alors comment faire pour à la fois mater cette identité ukrainienne qui voudrait ressurgir et de l'autre côté, la laisser s'exprimer par d'autres moyens culturels d'écrivains, de romans ou d'autres façons. Comment ça se passe justement, Alexandra Goujon?
La question, la difficulté, c'est comment récupérer un territoire tout en conservant une partie des élites qui vont pouvoir participer à la soviétisation. Et on peut pas éliminer tout le monde.
Ça, on le sait.
Donc, et éliminer tous les particularismes. Donc, en fait, ce qui va se passer après la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il va y avoir une oscillation entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis.
Et avec une respiration qui va jamais être tout à fait la même. Pas toujours au même rythme, d'une certaine
façon. Tout à fait. C'est-à-dire que vont pouvoir être catalogués de nationalistes bourgeois, des intellectuels, par exemple, mais pour différentes raisons et pas tout à fait de la même manière en fonction de l'époque, des époques avant, par exemple, la période Brejnev ou après.
Yulia Choukan et puis Catherine
Gousseff.
De
toute façon, du point de vue des rapports au nationalisme, la politique des nationalités telle qu'elle avait été mise en place en URSS, on voit toujours des périodes d'oscillation, des périodes où on élargit les limites du possible, notamment cette politique d'indigénisation dans les années 20, de promotion de langue nationale dans les différentes républiques soviétiques. Ensuite, plutôt une période de russification. Et donc là, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on va aussi en Ukraine avoir cette période de promotion plus importante de la langue. Donc c'est sous la direction de Chevel, donc le premier secrétaire du Parti communiste ukrainien dans les années 60, où là on voit plutôt un développement et de larges possibilités pour la promotion de la culture, de la langue. Et ensuite, à partir des années 70, avec l'arrivée au pouvoir donc de Chervitsky, qui est premier secrétaire du Parti communiste. Donc on va de nouveau basculer plus dans cette période de russification et de promotion des élites russes. Et donc on voit effectivement des oscillations en fonction des périodes.
Catherine Gousseff, j'imagine que l'usage de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est aussi quelque chose, vous êtes spécialiste de ces questions-là, est aussi quelque chose de fondamental. Comment et quel symbole, quel moment, quelle période de la Seconde Guerre mondiale on privilégie quand il s'agit ensuite de faire des commémorations dans cette après-Seconde Guerre mondiale? Qu'est-ce qu'il en est justement dans ce territoire de l'Ukraine devenu donc une des républiques soviétiques, Catherine Gousseff?
Oui, il y a une glorification, enfin comme ailleurs dans l'Union soviétique, de la Seconde Guerre mondiale, mais pour revenir à ces questions de nationalisme, il y a quand même un jeu intéressant de Khrushchev à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'une part, bon, qui est marqué évidemment par le grand problème de la lutte contre le nationalisme ukrainien de l'Ouest, lié à ces régions annexées, mais d'autre part, il y a une politique de Khrushchev à l'égard de Staline, qui peut paraître comme une sorte d'épiphénomène, puisque pour certains aspects, ça n'a pas fonctionné, mais qui est quand même intéressante à souligner, c'est la question des nouvelles frontières de l'Ukraine et des tentatives donc de grande Ukraine que Khrushchev a essayé de défendre à ce moment-là, avec donc plus ou moins de succès. C'est aussi d'ailleurs à cette période-là qu'il suggère à Staline qu'il serait bien d'annexer la Crimée à l'Ukraine, enfin de faire de la Crimée un territoire ukrainien. Donc il y a quand même cette volonté d'une grande Ukraine de Khrushchev qui est intéressante à rappeler.
Alors, tout de même, arrêtons-nous sur cet exemple que vous venez de citer et sur la position de Khrouchtchev, parce que Khrouchtchev, tout de même, d'après ce que j'ai cru comprendre en lisant les ouvrages pour préparer les autres émissions, n'est pas totalement absent de la répression, en particulier de la terreur stalinienne en Ukraine, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, que cherche-t-il? Que veut-il? Il se revendique russe et ukrainien à la fois. On ne sait pas très bien quelle est sa position sur cette question-là. Alexandra Goujon, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Pourquoi Khrouchtchev a-t-il cette relation particulière avec l'Ukraine et en quoi cela jouera-t-il sur justement le destin de l'Ukraine dans l'Union soviétique ensuite? On va peut-être venir avec vous trois ensuite sur la question du rattachement à la Crimée, de la Crimée à l'Ukraine en 1954. Alexandra Goujon.
Mais je crois qu'en fait, ce qui s'est passé aussi, on parlait de période d'oscillation, et en fait, il faut voir qu'il y a quand même la prise de décision peut être à certains moments un peu plus diluée. On parle beaucoup de ce qui se passe, enfin de ce que décide Moscou, de ce que le centre décide, mais en fait, il faut voir aussi que les élites ukrainiennes ont leur propre agenda et défendent, enfin peuvent être là pour défendre ce qu'ils vont appeler l'intérêt national, qui peut être à la fois culturel,
ukrainien.
Tout à fait, qui peut être à la fois culturel, la langue, mais aussi par exemple économique, obtenir plus de subventions de la part du centre pour développer tel et tel secteur économique. Donc ce projet aussi de grande Ukraine, c'est un projet qui à certains moments peut être défini, soutenu par les élites locales. Mmh. Et c'est peut-être ce que l'on connaît moins dans l'historiographie, puisque les études principalement sur cette zone ont été faites. Alors, depuis les années 90, ça s'est développé différemment, mais sinon, on a quand même une vision qui est souvent une vision du centre,
centralisée.
Qui joue un rôle, bien sûr, important. Mais...
Catherine Gousseff, alors sur ce rattachement de la Crimée à l'Ukraine en 1954, puisque tout le monde, depuis le début de la semaine, dans les couloirs de France Culture, tu me dis explique-nous pourquoi la Crimée a été rattachée à l'Ukraine. Donc pourquoi en 1954 il y a cette décision?
Et vous avez du mal à trouver donc le contexte et les circonstances. C'est vrai que ça paraît comme quelque chose de complètement anecdotique. Au fond, ce rattachement de la Crimée à l'Ukraine...
Ça ne semble pas anecdotique aujourd'hui, mais enfin...
Absolument, mais ça c'est a posteriori, on ne mesure jamais les conséquences, toujours les conséquences de ces actes. C'est anecdotique dans la mesure où c'est donc un rattachement qui est proclamé dans le cadre du 300e anniversaire du traité de...
1654.
Oui, de Pereyaslav, donc de Bogdan Khmelnytsky. Et donc, ce traité qui, rappelons-le, proclame justement le rattachement, en fait, de la Cosaque Ukraine. Donc, dans le contexte de 1954, finalement, c'est une expression
une commémoration qui tourne à une sorte d'actualisation de la commémoration, quoi, d'une certaine façon.
Oui, et puis de loyauté à l'égard du pouvoir central. C'est quand même une façon, justement, de couronner, de marquer la loyauté de l'Ukraine à l'égard du pouvoir central, et donc d'effacer des années. La relation de l'Ukraine à Moscou a été compliquée, et en particulier, comme je le disais, à la fin de la guerre, quand même, cette l'importance du mouvement nationaliste a bien montré à quel point l'Ukraine était un territoire problématique au sein de l'Union soviétique.
Yulia Choukham.
Oui, je voulais juste ajouter, on est quand même dans le cadre de l'URSS en 1954, et donc le rattachement est purement administratif à l'Ukraine. L'Ukraine ne bénéficie pas de statut particulier au sein de l'Ukraine soviétique. Ce n'est qu'après, donc dans les années 90, qu'elle obtiendra ce statut d'autonomie. Et dans le même temps, l'Ukraine reste aussi quand même la base de stationnement de la flotte de la mer Noire. La Crimée reste quand même la base de stationnement de la flotte de la mer Noire, et donc de ce fait, la gestion se fait aussi pour toutes ces questions militaires, certes à travers Kiev, mais également à travers Moscou.
Sur ce point, Alexandra Goujon, sur attachement donc,
Oui, tout à fait, c'est une manière, effectivement, je venais tout à l'heure lorsque je parlais des élites politiques locales, la question c'est comment développer donc leur propre, l'intérêt national, mais toujours, bien évidemment, eu égard à une forme de loyauté. Et là, la commémoration, en l'occurrence, la Crimée est en quelque sorte un peu offerte. Mmh. Hein, c'est une sorte de offerte par rapport, une sorte de cadeau par rapport à la loyauté. Ceci dit, donc des élites ukrainiennes à l'égard du pouvoir central. Ceci dit, on sait aussi comment le rattachement d'un territoire peut aussi entraîner des difficultés à la manière dont ce territoire peut s'homogénéiser, c'est-à-dire que cette manière de gérer les territoires en Union soviétique, elle est plus complexe si on fait des parallèles, et on les fait aujourd'hui avec, par exemple, la Géorgie ou la Moldavie, avec qui empêcherait une forme d'unité nationale aussi. Donc,
alors, ce territoire de la Crimée, donc rattaché à l'Ukraine, on avance dans les années 60 et 70. J'ai cru comprendre en vous lisant qu'il y a quelque chose qui se passe autour du règne de Brejnev, la sortie du pouvoir de Khrouchtchev et de l'arrivée de Brejnev au pouvoir à un moment. Qu'est-ce qui se passe pour cette Ukraine, donc, au sein de l'Union soviétique dans ces années brejneviennes? Est-ce que c'est plus dur, plus difficile, Alexandra Goujon?
Bah oui, tout d'abord, donc pendant les années brejneviennes, pour faire référence à la Seconde Guerre mondiale, il y a toute cette idéologie autour de la Grande Guerre patriotique et relégitimer le pouvoir soviétique à partir donc de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. On l'observe en Ukraine avec un certain décalage, mais avec une valorisation, c'est un peu compliqué, mais la mise en avant la victimisation en Ukraine, notamment autour des villages brûlés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, on passe. Alors, il y a quand même l'épisode un peu de Babillard, c'est-à-dire la question de la mémoire des Juifs, mais qui n'est jamais dit tel quel. Donc, on commence déjà à avoir un discours mémoriel et une narration qui vise à masquer en fait certains éléments d'histoire pour surtout glorifier le rôle patriotique de l'Union soviétique. Et puis d'un point de vue peut-être dans les années 70, d'un point de vue culturel, là effectivement on a en Ukraine une répression de certains intellectuels et notamment de ceux qui mettent en avant, alors avec un double phénomène, à la fois la spécificité de l'identité culturelle ukrainienne, mais aussi ceux qui s'appuient sur les accords d'Helsinki et la question du fait que l'Union soviétique s'est engagée à respecter un certain nombre de principes.
On va y revenir avec vous à ces accords d'Helsinki qui semblent très importants. Yulia Choukane, sur cet usage de la mémoire.
Non, mais je voulais aussi d'abord revenir peut-être sur les accords d'Helsinki, donc parce que les années 70 en Ukraine, c'est aussi la mise en place du mouvement dissident qu'il faut mentionner, parce qu'il est extrêmement important aussi à la fin de l'URSS, fin des années 80, et donc mise en place du...
Rappelons les accords d'Helsinki, ce sont ces accords qui sont négociés entre Est et Ouest en 1975.
Et donc il y a cette fameuse troisième corbeille qui porte sur le respect des droits de l'homme, et en signant donc cet accord, l'URSS s'engage à respecter un certain nombre de principes, ce qui donne une raison bien évidemment à l'intérieur du pays, donc aux dissidents en Russie qu'en Ukraine, mais dans d'autres républiques aussi, donc de faire référence à cet engagement de l'URSS et de se mobiliser pour demander le respect de ces accords.
Catherine Gousseff, sur ces années 70, donc, et puis sur cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a tout de même, vous avez travaillé sur cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale, elle pèse encore tardivement, jusque dans la fin de l'Union soviétique, dans ces années 70-80, elle pèse encore tardivement cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans ces territoires-là, c'est-à-dire qu'on se raconte, soit en famille, soit dans des milieux associatifs, on se raconte cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. Comment cela se passe-t-il entre le récit, disons, homogénéisé par l'Académie des sciences et l'Académie d'histoire, et puis les récits qui, évidemment, ne concordent pas forcément dans des territoires comme le territoire ukrainien?
Pour cette période-là, c'est évidemment relativement difficile d'analyser cet écart entre des discours de filiation au sein des familles et puis la mémoire qui malgré tout, ce sont des années où il y a beaucoup de publications, de témoignages et qui, il y aura un rebondissement immédiat dans la période post-soviétique. Alors évidemment, la question de la densité justement de l'espace mémorial de ces années-là évidemment ce qui se manifeste après l'effondrement de l'Union soviétique.
Est-ce qu'il prépare quelque chose d'une certaine façon? Est-ce que ce bouillonnement mémoriel prépare quelque chose qui pourrait conduire, évidemment dans le cadre de l'éclatement de l'URSS, à la question d'une indépendance possible et d'un autre discours que le discours qui a été tenu jusqu'alors? Est-ce que dans ce bouillonnement de mémoire autour de la Seconde Guerre mondiale, il y a quelque chose qui se niche ou pas du tout? Je sais pas, je vois Yulia Tchoukane, vous dites non.
Non, mais je ne sais pas si on peut parler en URSS dans les années 70 de bouillonnement mémoriel, puisque les deux narrations, comme on l'a déjà dit, l'une, il y en a une qui est construite à partir du milieu des années 60 en URSS, donc puisque toutes ces commémorations autour de la Seconde Guerre mondiale, enfin la grande guerre patriotique en URSS, il ne faut pas oublier, elle date uniquement du milieu des années 60, puisque pendant donc les 10-15 années après la guerre, il n'y a pas vraiment, l'accent n'est pas vraiment mis en fait sur l'exploit du peuple, sur la guerre. Et de l'autre côté, donc la deuxième narration, le bouillonnement est plutôt ailleurs, en dehors du territoire de l'URSS, donc dans les milieux de la diaspora, qui contribue largement aussi donc à construire une contre-narration.
Catherine Gousseff, sur ces milieux de la diaspora, comment ils nourrissent? Est-ce qu'on a un échange entre ces milieux de la diaspora et ceux qui continuent à vivre en Union soviétique dans ces années 70 et 80, ou est-ce que c'est totalement fermé? Il n'y a pas de transmission, justement, par l'extérieur, là aussi?
Disons qu'il y a surtout un phénomène de réappropriation qui se manifeste de façon très spectaculaire à partir de la perestroïka, surtout. Et c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement, il y a vraiment un essor très, très, très considérable, justement, de l'intérêt et de la place occupée par à la fois l'histoire et la mémoire dans ce regard sur le passé, le XXe siècle, l'ensemble du XXe siècle. Soviétique et ukrainien.
Alors, Alexandra Goujon, vous avez travaillé sur ces mouvements civils qui naissent, comme le disait Yulia Tchoukane et comme vous le disiez tout à l'heure, après les accords d'Helsinki, à partir de 1976, on voit des associations ukrainiennes qui commencent à se revendiquer, des groupes ukrainiens de droits de l'homme en particulier, qui commencent à se revendiquer de ces accords d'Helsinki. Commence là, justement, entre 76 et la chute du mur, et 89, 90 et l'indépendance ukrainienne. Comment tout cela chemine-t-il dans la société ukrainienne? Par où passe-t-il? Vous avez des chapitres intéressants dans votre livre « Révolution politique et identitaire » sur les différents modes d'action qui sont progressivement mis en place, le meeting, les rassemblements mémoriels justement qu'on évoquait à l'instant même, c'est-à-dire autour d'une date, d'un moment particulier, la grande famille ou autre chose, ou les répressions staliniennes, et puis progressivement on peut faire passer des revendications politiques autour de cela, ou encore les grèves.
Justement, je voulais rebondir là-dessus. Je crois que peut-être la mémoire qui joue un rôle le plus important à la fin des années 80, début des années 90, c'est la famine et la période en fait des années 30. Et là, pour le coup, il y a peut-être un bouillonnement. Je ne sais pas si on peut parler de bouillonnement, mais même des récits sur la famine. Et l'idée, c'est
quand
avant
vous dites
tout,
c'est quoi 85, 86, ça commence.
Oui, mais bien sûr, ça commence plus tard en termes de les journalistes qui commencent à appeler à des témoignages publiquement dans la presse, ça commence 89, 90. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas que c'est préparé, c'est que les gens savent en Ukraine ce qui s'est passé et que ça rejaillit publiquement à ce moment-là. Mais d'accord. Surtout, c'est qu'on met l'accent sur l'Ukraine victime, les Ukrainiens victimes, et les Ukrainiens sont avant tout victimes. De Staline, puis après ça va être décliné victime du pouvoir soviétique, puis du pouvoir communiste, et ensuite, mais là ça, on arrivera un petit peu plus tardivement, ensuite va venir se greffer là-dessus la mémoire des nationalistes ukrainiens de la Seconde Guerre mondiale. Et là, il va y avoir un certain nombre de clivages. Mais pour revenir sur les mouvements, alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir dans quelle mesure Gorbatchev, qui arrive au pouvoir donc en 1986, cherche à s'appuyer sur les réformateurs qui peuvent exister dans les républiques, donc y compris l'Ukraine. Et que Gorbatchev va, en quelque sorte, favoriser la mise en place de mouvements sociopolitiques de soutien à sa politique de perestroïka. Et de ce fait, donc, ça va entraîner une mobilisation au départ au sein des élites intellectuelles plutôt communiste, auxquels vont s'arrimer les groupes dont on parlait, plus radicaux.
Plus nationaliste.
Plus nationaliste, bien sûr, des années 70, hein, qui dans les années 70 ont valorisé la langue ukrainienne, mais se sont aussi attaqués à l'idée que l'Union soviétique ne respectait pas les accords d'Helsinki, qui vont être en procès pour certains, qui vont donc être envoyés dans les années 70 ou 80,
dans des camps psychiatriques,
dans des camps. Donc les dissidents les plus radicaux, et c'est ce qui va créer ce mouvement, hein, de soutien à la perestroïka au début, mais qui bien évidemment est aussi un mouvement de soutien à l'identité nationale ukrainienne.
Mais dans ces mouvements nationalistes qui rejoignent ces fronts nationaux, comme vous les appelez dans votre travail, Front populaire, Alexandra Goujon, rejoignent donc ces fronts populaires où il y a des communistes dissidents qui soutiennent le processus de la perestroïka ou qui sont proches du processus de la perestroïka, il y a tout de même des gens qui ne remettent pas en cause les positions des nationalistes pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont collaboré avec les nazis, ou oui ou non? C'est-à-dire, il y a des anciens de l'UPA, dites-vous, des gens qui sont proches de ces mouvements-là. Quel regard portent-ils sur ces exactions, sur ce qui s'est passé, etc.? Est-ce qu'ils sont totalement du côté du soutien à ce qui s'est fait pendant cette guerre, ou au contraire, ils sont distanciés par rapport à cette question-là, en disant, c'est nos héritages, mais ça n'est pas le seul, en l'occurrence?
Oui, alors là, à ce moment-là, c'est pas tellement le problème. La question plutôt centrale, ça apparaîtra un peu plus tard, ça. La question centrale, et puis personne ne voit venir à ce moment-là, en 89, personne ne voit venir l'indépendance. Oui. Donc la question, c'est comment obtenir plus d'autonomie, obtenir un respect. Il faut savoir que la plupart des écoles en Ukraine n'utilisent pas la langue ukrainienne. Donc comment obtenir plus du pouvoir central en termes d'autonomie politique, culturelle, voire économique même. Et ça, c'est la question principale à ce moment-là.
Alors, Yulia Choukhan, on voit aussi un registre d'action, comme on dit en sciences politiques, nouveau, qui se développe dans ce moment-là. Il y a les chaînes humaines. On voit que les chaînes humaines naissent du côté des pays baltes, qui sont utilisées en Ukraine à ce moment-là. Et ça a quelque chose à voir avec ce qu'on a connu dans les dernières semaines, c'est-à-dire un type d'action, un registre d'action qui n'est peut-être pas habituel en tous les cas pour nous en Europe occidentale. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela, de cette invention un peu bricolée, pourrait-on dire, transfert de technologie de manifestation d'un endroit à un autre dans cette période qui est la période charnière de la fin de l'Union soviétique entre 89 et 91, mettons.
Mais ce qu'on voit, c'est que l'impulsion vient initialement des fronts populaires dans les États baltes, qui sont en effet les premiers à s'organiser, à se mobiliser, d'abord sur des thématiques culturelles, linguistiques, sur des revendications culturelles et linguistiques, et plus progressivement, donc ensuite, sur les revendications de souveraineté, et ensuite, voire même d'indépendance vis-à-vis de l'URSS. Et notamment pour les fronts populaires en Biélorussie ou encore en Ukraine, il y a des idées qui circulent en effet, et donc une certaine reprise, réappropriation des différents modes d'action. Mais aussi, il y a beaucoup dans l'invention est là également. On parle beaucoup aujourd'hui, quand on parle de la mobilisation sur le Maïdan à Kiev, on parle de la cité détente. Et la cité détente est purement un répertoire d'action donc ukrainien, puisque il renvoie à cette mobilisation des étudiants ukrainiens en octobre 90 qui ont cherché à obtenir la démission du Premier ministre de l'époque, considéré comme trop peu réticent à cette idée d'autonomie, voire même d'indépendance de l'Ukraine, et trop loyal vis-à-vis de Moscou. Et donc, qu'est-ce que font les étudiants en octobre 90? Ils installent une cité détente sur la place de l'indépendance, donc sur le Maïdan.
Donc il faut faire de l'histoire place pour comprendre les
à l'époque place d'octobre, à l'époque plaque d'octobre.
Oui, ça s'appelle pas encore Maïdan. Alors ce qui est intéressant, c'est que on voit comment l'indépendance arrive de façon quoi, par surprise, cette indépendance de 91. Est-ce que les gens sont surpris par ce qui arrive? On s'y attend pas, en l'occurrence, Alexandra Goujon.
On ne s'attend pas à un éclatement, ça c'est sûr, de l'Union soviétique. Surprise, il y a eu quand même une certaine préparation, et en même temps la préparation est de longue date. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, c'est cette politique soviétique des nationalités qu'on a déjà évoquée, mais surtout ce découpage territorial qui fait que chaque république soviétique a son parlement, son conseil des ministres, ses institutions universitaires, ses institutions dont j'ai parlé, là, les unions corporatistes, d'écrivains, etc. Des institutions déjà d'une certaine manière nationalisée. Et c'est pour ça que l'éclatement se fait avec des structures existantes. Mmh. Et avec des élites qui sont aussi nationalisées. Et d'ailleurs, on va le voir en Ukraine, c'est le Parti communiste qui va prendre en charge, d'une certaine mesure, qui va reprendre le discours sur l'indépendance.
Je voulais juste ajouter quelques éléments sur le Parti communiste, puisque j'ai travaillé sur les trajectoires des élites communistes en Ukraine. Et quand on discute, et j'ai fait beaucoup d'entretiens avec les dirigeants donc ukrainiens, en effet, on voit... Tout le monde dit ne pas avoir prévu effectivement cet éclatement de l'URSS, mais dans le même temps, on voit déjà dans les trajectoires individuelles une stratégie de différenciation par rapport aux élites moscovites, par rapport aux élites donc. Centrale. Aux élites centrales, les raisons en sont extrêmement différentes. Ça peut être une des demandes de plus de souveraineté économique, notamment. Et effectivement, du côté des élites, c'est beaucoup moins les questions linguistiques ou encore les questions culturelles. C'est plus une question des questions économiques, cette possibilité de gérer son territoire indépendamment de Moscou. Donc, à la fois, il y a une surprise certes, mais il y a un long processus qui amènera finalement donc à la mise en place des élites nationales. Et les élites communistes, pour certaines, vont effectivement reprendre les discours des élites nationalistes, les discours autour de la démocratie, de l'indépendance et de l'économie de marché aussi.
Catherine Gousseff, sur ces transformations.
Oui, je pense que tout d'abord, je crois que il était important, Yulia Chokan l'a bien rappelé, de situer aussi le mouvement ukrainien, enfin ces questions des fronts populaires par rapport aux Baltes. C'est vrai que l'Ukraine n'est quand même pas à l'avant-scène, n'est pas à l'avant-scène, et je pense jusqu'à la fin, jusqu'à l'effondrement. Et évidemment, je crois que dans le vécu aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur des observateurs de cette période-là, il est vrai qu'il est assez difficile de voir précisément où l'on va, parce qu'il y a une sorte de double mouvement. Alors il y a et puis différentes étapes dans cette année 91. Bon, il y a ce putsch qui rend effectivement l'actualité explosive. Donc c'est finalement l'échec de la tentative gorbatchevienne de réforme de l'Union soviétique dans son celle de la structure et de l'organisation de la fédération.
Je crois que c'est Timothy Garton Ash qui utilisait le terme de révolution, c'est ça?
Révolution.
Oui. Donc réforme et révolution, oui, pour la période précédente,
absolument.
Justement.
Donc il y a cet aspect qui effectivement est explosif, mais finalement le mouvement, l'implosion est aussi un mouvement qui participe de la fin de l'Union soviétique et qui, justement, se manifeste précisément dans les modalités mêmes, finalement, de la disparition de l'Union soviétique. Donc c'est cet aspect implosif qui rend difficile la réalité pour les différents états de l'Union soviétique de réaliser donc l'indépendance.
Alors moi, ce que j'ai découvert, j'ai retrouvé un vieil article issu de communication de colloque là-dessus, c'est que dès 1991, les débats juridiques sur la Crimée commencent. Ce qu'on entend aujourd'hui sont des débats qui sont récurrents, c'est-à-dire que il y a déjà des actions en justice des deux parties, de l'Ukraine et de ce qui reste de l'Union soviétique, de Moscou, pour pouvoir récupérer ou garder la Crimée, en l'occurrence, et que ça va continuer tout au long des années 90. Donc ce que l'on connaît aujourd'hui, et avec cette occupation par des soldats russes donc de la Crimée, c'est le processus d'un long processus qui remonte dès l'indépendance ukrainienne, en l'occurrence, Alexandra Goujon.
Oui, tout à fait, parce que ce qui se passe au moment de cet éclatement, c'est que il y a ces mouvements, enfin ces fronts populaires qui sont d'ailleurs composés de personnes différentes, comme on l'a dit, mais qui ou dans certaines républiques comme la Géorgie, le nationalisme va prendre le pas sur les réformateurs communistes. Donc, ce qui se passe, c'est que il y a une inquiétude, et on la voit aujourd'hui, de l'arrivée au pouvoir des nationalistes les plus radicaux dans les capitales des républiques, en Moldavie, en Ukraine ou donc, comme je l'ai dit, en Géorgie, où il y a certains territoires, donc comme la Crimée, qui ont une population donc différente et qui sont inquiètes de la politique qui pourrait être menée par ces éventuels nationalistes qui arriveraient au pouvoir. Du coup, l'inquiétude naît en Crimée, et la Crimée va commencer à demander plus d'autonomie, hein, et finalement va adopter des lois sur sa propre autonomie qui ensuite vont être réintégrées dans la constitution ukrainienne de 1996. Aussi, pourquoi ? Parce que la Crimée ne va pas jusqu'à proclamer, par exemple, son indépendance, comme ont pu le faire d'autres territoires, parce que finalement, ce ne sont pas les nationalistes radicaux qui sont arrivés au pouvoir en 1991.
Sans compter, puisqu'il faut boucler la boucle, on arrive malheureusement au terme de cette émission et on n'ira pas jusqu'à aujourd'hui, sans compter Yulia Choukhan, le retour des Tatars en Crimée, qui est aussi une donnée importante. 250 000 à 300 000 Tatars, dit-on, reviennent dans ces années d'après l'indépendance en Crimée et donc recomplexifient encore cette carte de cette région du monde.
Bien sûr, les Tatars de Crimée donc, n'ont pas été autorisés à retourner, contrairement à d'autres peuples déportés, ils n'ont pas été autorisés à retourner en Crimée. Et d'ailleurs, l'une des premières manifestations de la fin de l'URSS en 87 sur la place Rouge, c'était la mobilisation des Tatars qui demandaient ce retour en Crimée. Donc, ce retour va se faire de manière progressive et de manière assez spontanée avec à la fin de l'URSS, mais surtout après l'éclatement de l'URSS. Donc, les Tatars vont revenir en Crimée. Il y aura des tensions, quelques tensions avec les populations déjà installées en Crimée, notamment en question des terres, puisque les terres leur ont été expropriées. Les Tatars demandent donc à avoir un accès au territoire. Et il faut dire aussi que les Tatars apportent, peut-être ce sont les plus ukrainiens d'Ukraine aujourd'hui, comme on le voit, puisqu'il y a une vraie loyauté de la part de la communauté tatare vis-à-vis de l'Ukraine.
Merci à vous, Yulia Choukhan. Merci à vous, Alexandra Goujon. Je rappelle qu'on peut lire votre Révolution politique et identitaire en Ukraine et en Biélorussie, paru chez Belin. Merci tout particulier à vous, Karine Gousseff, parce que vous m'avez beaucoup aidé la semaine dernière à préparer cette série d'émissions dans l'urgence. Et merci donc de nous avoir montré qu'on peut travailler patiemment, tranquillement sur cette histoire de cette région du monde et qu'il y a quand même beaucoup de chercheurs et de chercheuses, plus nombreux que ceux qu'on entend généralement sur les autres antennes, à travailler sur cette question-là. Merci en tous les cas à toutes les trois d'avoir conclu cette série de 4 émissions autour de l'histoire de l'Ukraine. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. Luc Availlant était à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter ce feuilleton qu'ont été ces 4 émissions, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Vous pouvez donc les écouter en ligne pendant 3 ans. Vous pouvez télécharger ces 4 émissions pendant 1 an après leur diffusion. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur nos pages, ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore à nous suivre sur Twitter. Demain, eh bien, c'est vendredi, et ce vendredi-là, c'est le premier vendredi du mois. Nous allons donc avoir notre table ronde fiction, comme d'habitude, comme début de chaque mois, avec Pascal Horry, Arlette Farge et Fabrice Dalméda.